Je remarque que Catherine Dutu n'a toujours pas mis son coquelicot, alors même que nous accueillons Fabrice Nicolino qui publie avec François Veillerette « Nous voulons des coquelicots ». Ça n'est pas un livre, c'est un manifeste qui tombe à pic après la démission de Nicolas Hulot, après également une marche sur le climat qui a été assez largement suivie en France. Et il faut nous expliquer tout d'abord, Fabrice Nicolino, pourquoi un coquelicot ? Qu'est-ce que vous visez à travers ce symbole ?
Bon, qu'est-ce que c'est ? Un coquelicot, tout le monde va comprendre. D'abord, il me semble que tout le monde, presque tout le monde, aime le coquelicot. C'est une fleur qui est très belle. C'est le point de départ. C'est une fleur belle, très belle. Elle est fragile, bien sûr. Tout le monde le sait aussi. Il suffit de cueillir un coquelicot pour se rendre compte qu'il disparaît pratiquement dans vos mains. Et enfin, c'est une fleur qui est résistante. C'est-à-dire qu'elle, son pouvoir de germination, figurez-vous, est d'au moins 100 ans, c'est-à-dire une graine que vous gardez au sec, vous pouvez la planter 100 ans plus tard, si vous êtes toujours là du moins. Certains disent même que le pouvoir de germination avec un coquelicot, c'est 500 ans, ce qui serait colossal. Je crois que personne n'a encore tenté l'expérience. Et en tout cas, quand les traitements pesticides cessent, quelque part, sur un terrain, souvent, peu de temps après, le coquelicot refleurit. Et moi, qui suis une vieille personne, j'exagère un peu, quand même, mais je me souviens fort bien que dans mon enfance, il y avait des coquelicots et des bleuets dans tous les champs de blé, parce que ce sont des fleurs qu'on appelle messicoles, c'est-à-dire qui poussent au milieu des cultures. Quand il n'y a pas de traitement pesticide, quand il n'y a pas de traitement chimique, eh bien, dans les champs de blé, à perte de vue, c'est les fameux tableaux de Monet que tout le monde connaît ou que tout le monde devrait connaître, eh bien, à perte de vue, il y a des coquelicots et des bleuets dans les champs. Et c'est ça le point de départ de toute cette affaire.
Bon, mais alors pourquoi lancer cet appel, Fabrice Nicolino, alors qu'on a l'impression que même les individus les plus réticents à l'arrêt des pesticides sont en train de changer d'avis. Le Roundup, Monsanto a de moins en moins de défenseurs, Fabrice.
Non, là je vous arrête franchement et sans détour. C'est pas vrai ce que vous dites. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien appeler le lobby des pesticides, Nicolas Hulot, quand il est parti il y a quelques jours, a parlé de la puissance des lobbies qui l'empêchaient de faire son travail de ministre de l'écologie. Le lobby des pesticides, c'est un lobby extraordinairement puissant. C'est un lobby qui s'est constitué après-guerre, qui a reçu l'appui, faut le dire, enthousiaste des services du ministère de l'Agriculture, de l'INRA naissante. L'INRA, c'est l'Institut National de la Recherche Agronomique, c'est né en 1946. Donc il y a eu création d'un lobby qui ne s'est jamais défait jusqu'à 2018. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, en vérité, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, un lobby très très puissant qui relie toujours les services de l'État, les services du ministère de l'Agriculture, une partie de l'INRA, la FNSEA pour ne pas la nommer, qui est le grand syndicat productiviste que tout le monde connaît, et puis l'industrie, bien entendu, si puissante, l'agrochimie, c'est quand même Bayer, c'est BASF, c'est Bayer Monsanto, puisque Monsanto vient d'être acheté par Bayer, donc ce sont des puissances économiques colossales, et tous ces gens marchent du même pas en défense du système des pesticides. Il faut bien comprendre que toutes les politiques de réduction ont échoué. Elles ont échoué parce qu'elles se heurtaient à ce lobby tellement enraciné dans l'appareil d'État.
Oui, parce que alors, ce qui est étonnant, le discours public et hostile aux pesticides, Fabrice Nicolino, on a même fait un comptage, j'ai vu un comptage du nombre d'articles consacrés aux pesticides et le nombre d'articles favorables aux pesticides est ultra minoritaire et cependant l'utilisation des pesticides ces dernières années a augmenté, j'ai bien dit a augmenté.
Oui, ça a augmenté, mais c'est ahurissant. Enfin, c'est simplement hallucinant. Pourquoi ? Parce que, bon, on s'en souvient pas forcément, mais en 2007, il y a eu le Grenelle de l'environnement, qui était une grande opération publicitaire de notre président de l'époque, Nicolas Sarkozy. On avait annoncé à grand renfort de trompette que la consommation de pesticides allait enfin baisser en France. On s'en donnait les moyens. On a lancé un plan public Ecophyto qui a coûté des milliards d'euros, figurez-vous. Des milliards d'euros qui ont été dépensés en vain puisque on annonçait qu'on allait en 10 ans diminuer la consommation de pesticides de 50%. Et tout au contraire, la consommation a augmenté dans ce temps-là de 12%. La puissance du lobby. C'est-à-dire, si vous voulez,
il ne réussirait pas sans les agriculteurs.
Oui, c'est une affaire très complexe parce que si vous voulez, il y a une puissance de feu, il n'y a pas d'autre expression selon moi dans le monde agricole qui est le syndicat, la FNSEA, qui est un syndicat qui a été associé depuis le départ à la politique agricole. On parle de cogestion parce que la FNSEA a été dans toutes les décisions publiques en matière d'agriculture depuis l'après-guerre, mais surtout depuis l'arrivée de Général de Gaulle au pouvoir en 1958. Donc cette FNSEA, elle est liée structurellement à l'univers marchand des pesticides. Je vais vous donner un exemple très simple que beaucoup connaissent, mais quand même, il faut le rappeler. Xavier Belin, qui est mort d'une crise cardiaque récemment, était le patron de la FNSEA. Il était président de la FNSEA. Et dans le même temps, il était aussi le patron d'une holding agro-industrielle, Avril, qui pèse entre 6 et 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. C'est un monde qui est totalement lié à celui des pesticides et de l'agro-industrie, on va dire. Et donc, la FNSEA appartient à ce monde-là. Donc, évidemment, elle a intérêt à ce que les pesticides continuent d'être massivement utilisés en France. À mon sens, elle ne sert pas les intérêts de la paysannerie et des paysans. Du reste, depuis qu'elle gère le dossier, au nom des paysans, des millions de paysans ont disparu. C'est un syndicat assez étrange, puisque loin de défendre, me semble-t-il, les intérêts de ses membres, elle assiste et elle participe à un processus de disparition de millions de paysans. C'est un processus pratiquement achevé, mais où sont les paysans?
Mais alors comment expliquez-vous justement cette stratégie, Fabrice Nicolino? Parce que ça signifierait que la FNSEA aurait par exemple des certitudes sur la non-nocivité des pesticides, ou bien au contraire?
Moi, je pense que ces gens s'en moquent complètement, parce que c'est une logique purement économique et financière.
Comment? Ils sont criminels dans ce cas-là, selon vous?
Moi, je dis, sans aucun détour, que l'industrie des pesticides est progressivement devenue une industrie criminelle, et sans aucun doute, aujourd'hui, c'est une industrie criminelle qui a pas mal de complices, mais pas mal de complices dans les services d'État, il faut pas se leurrer. Prenons un exemple, parce que ce sera peut-être plus clair pour les auditeurs de France Culture. Le chlordécone, on en a parlé récemment, parce que le chlordécone, c'est un pesticide qui a été utilisé massivement dans les bananeraies, dans les Antilles françaises, en Guadeloupe, en Martinique, surtout en Guadeloupe. Le chlordécone, c'est un produit violemment toxique dont la rémanence, c'est-à-dire la durée de vie dans les sols, est d'environ 400 ans. C'est-à-dire que pendant 400 ans, on trouvera du chlordécone dans le sol des bananeraies de la Guadeloupe. Or, c'est un violent toxique, c'est un cancérogène, c'est un reprotoxique. Il a été interdit, figurez-vous, aux États-Unis en 1976, après un scandale sanitaire dont le monde entier a parlé. Donc, il est interdit en 1976, mais les propriétaires des bananeraies font pression, font du lobbying auprès des ministères et des services d'État en France, et des ministres de droite et de gauche. Là, je vous en citer un qui est très connu, c'est Henri Nallet qui a commencé comme chargé de mission.
Donc lui qui était socialiste.
Ministre de l'Agriculture de François Mitterrand, puis ministre de la Justice, mais c'est un homme qui a commencé sa carrière comme chargé de mission de la FNSEA. Ça ne surprendra en vérité personne. Il a été ministre de la République. Il finit sa vie comme lobbyiste au service des laboratoires Servier, impliqué, comme on le sait, dans le scandale Mediator. Donc il y a une certaine logique là-dedans. Il y a eu des signatures absolument honteuses de ministres de gauche et de droite qui ont donné des dérogations à un produit, le chlordécone, dont on savait qu'il était extrêmement dangereux puisqu'il avait été interdit aux États-Unis en 1967. On l'a utilisé plus ou moins légalement jusqu'en 1993, c'est-à-dire près de 20 ans après son interdiction aux États-Unis. C'est ahurissant. Aujourd'hui, la santé publique dans les Antilles et en Guadeloupe est lamentable. La Guadeloupe a le record du monde de cancer de la prostate rapporté à 100 000 habitants. Donc on est dans une situation, oui, vous parliez de crime, je le dis franchement, oui, il y a eu crime, et j'aimerais bien qu'on commence à s'intéresser aux criminels.
Est-ce que vous êtes en train de dire que l'on est en train de revivre, par exemple, ce que l'on a déjà vécu avec l'amiante? Alors, il faut rappeler aux plus jeunes auditeurs, l'amiante, c'est un produit dont la toxicité a été connue avec certitude assez tôt. Il a fallu 30 ans pour que le produit soit interdit. Des médecins ont fait des certificats à des gens malades en disant qu'ils étaient tout à fait aptes à continuer à respirer de l'amiante. C'est ça,
écoutez, on est ici à Radio France. Ça fait des années et des années, à chaque fois que je passe dans les environs, je vois que les travaux continuent. Il y a eu un désamiantage massif qui a coûté des centaines de millions d'euros. À un moment où la radio publique s'interroge sur ses moyens, je trouve ça ahurissant qu'on ne s'interroge pas fondamentalement sur ce qui s'est passé. Vous parlez de l'amiante, bien sûr, c'est un processus qui est très comparable. Les moyens utilisés sont très comparables. Le lobby des pesticides en France, par exemple, s'est rapproché et a utilisé les services d'un lobbyiste de l'amiante bien connu qui s'appelle Marcel Valta, qui est décédé aujourd'hui, mais qui a été le grand lobbyiste de l'amiante en France, qui a joué un rôle décisif.
C'est quoi un lobbyiste? Racontez-nous comment ces gens-là travaillent, bah, Fabrice
Nicolet. Par exemple, Marcel Valta, comment il travaille? Je vous cite un exemple, Jean-Charles Bocquet. Bon, Jean-Charles Bocquet, c'était le directeur, il est maintenant, il fait la même chose que ce qu'il faisait en France, à Bruxelles, auprès de l'Europe. Donc Jean-Charles Bocquet, que j'ai plusieurs fois rencontré, c'était donc le directeur de l'UIPP. UIPP, c'est Union des Industries de la Protection des Plantes. Bon, déjà, on est dans la novlangue la plus totale, puisqu'il se présente comme l'Union des Industries de la Protection des Plantes, alors qu'il s'agit, eux, ils parlent toujours de protection des plantes ou de phytopharmacie. Donc, ils jouent avec les mots. En fait, l'UIPP, c'est l'industrie des pesticides, c'est 98% des ventes de pesticides en France. Eh bien, Jean-Charles Bocquet, je me souviens d'être allé le voir une fois à Boulogne, où il avait ses locaux, ses beaux locaux du reste. Eh bien, il était pressé, Jean-Charles Bocquet, parce qu'il filait au Sénat pour aller discuter et déjeuner avec des sénateurs, et c'est un travail constant. Mais il faut bien comprendre que ces gens, quand on dit, par exemple, quand on oppose lobby industriel et lobby de la protection de la nature, par exemple, c'est complètement extravagant, parce que il s'agit pas du tout de la même chose. Les uns défendent des intérêts tout à fait particuliers et industriels, et les autres défendent des intérêts généraux. Et les uns ont à peu près 1000 fois plus de moyens que les autres. Donc on est en face d'une situation où il n'y a pas de combat à armes égales, où on est en face vraiment d'une machine de guerre qui veut vendre des produits qu'on sait parfaitement dangereux.
L'industrie des pesticides dit, Fabrice Nicolino, que le Roundup, par exemple, est un produit générique. Il est aujourd'hui libre de droit. Quiconque le souhaite peut en produire. Donc, c'est un produit qui rapporte peu d'argent. Et donc, ils expliquent que, en substance, ils vont pas dépenser beaucoup d'argent en lobbying pour défendre un produit qui est en fin de vie du point de vue capitalistique.
Non, mais écoutez, faut dire les choses avec netteté. Monsanto a un passé entièrement criminel. Criminel. C'est attesté, je reviens pas sur les PCB dès les années 30 du siècle passé, ou l'agent orange qui a été déversé sur les forêts vietnamiennes et avec des résultats épouvantables, puisque 50 ans après, il y a encore 3 millions de Vietnamiens qui souffrent des effets de ce défoliant, qui était un défoliant Monsanto. Ce sont des gens qui mentent avec clarté et de manière organisée. On le sait. Pourquoi on le sait? Parce que le journal Le Monde a publié les Monsanto Papers, c'est-à-dire c'est des documents qui ont été rendus publics après une décision d'une Cour fédérale américaine. On sait donc que Monsanto a une sorte de cabinet noir qui organise la désinformation, qui disqualifie les scientifiques qui ne lui plaisent pas suffisamment, qui fait avaliser, ça paraît incroyable, mais écoutez-moi car c'est la vérité, qui fait avaliser par des scientifiques plus ou moins connus, de la propagande, des articles pseudo-scientifiques qui ont été écrits par les services de Monsanto. Je recommence.
C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire?
Je veux que tout le monde comprenne. Monsanto fabrique des documents de propagande à la gloire de ses produits pour dire que tout va bien dans le meilleur des mondes possible. Très bien. Il cherche des scientifiques qui acceptent d'endosser, de signer ces papiers qui sont payés par Monsanto. Et ensuite, les articles paraissent dans des revues sous le nom de scientifique et paraissent sérieux alors qu'il s'agit d'articles de propagande au service des intérêts commerciaux de Monsanto.
Alors par exemple, Fabrice Nicolino, j'ai sous les yeux une revue qui s'appelle Science et Pseudo-Science. Dans cette revue, il est question donc du glyphosate, c'est le nom du Roundup, le nom de la molécule. Le glyphosate est-il cancérogène? Et la réponse qu'apporte cette revue est plutôt non. Ils expliquent qu'il y a un certain nombre d'études qui montrent que le glyphosate n'est pas cancérogène. Il y en aurait une seule, qui tendrait à prouver le contraire. Comment êtes-vous certain, Fabrice Nicolino? Non,
attendez, je vais pas répondre sur ce plan précis, je vais vous dire pourquoi. D'abord, ma réponse est oui, certainement que le glyphosate est un produit cancérogène, le Roundup encore plus, parce qu'il ajoute des additifs qui rendent le produit commercial à l'arrivée encore plus dangereux et toxique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout n'est plus que manœuvre de diversion et manœuvre de retardement. Le processus auquel on fait face avec les pesticides, c'est le même qu'avec l'amiante, le même qu'avec le tabac. Ce sont des choses qui sont parfaitement documentées. On sait comment ça se passe. On sait, par exemple, pour le tabac, comment les lobbyistes ont fait dès les années 50, qui savaient parfaitement ce qu'il en était de la cigarette. On sait pour l'amiante. On sait pour quantité. Et c'est la même chose. C'est-à-dire, ces gens, en conscience, veulent défendre des intérêts. Il n'y a plus, fondamentalement, il n'y a plus de discussion scientifique sur la dangerosité des pesticides. Donc, si vous voulez...
Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'article que j'ai sous les yeux, par exemple, pour vous, c'est un article factice,
non, fabriqué? Je n'en sais rien, parce que je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas vous répondre. Ce que je veux vous dire...
Parce qu'en fait, ce sont des méta-études, c'est-à-dire, pour expliquer aux auditeurs,
je veux vous dire quelque chose de clair. Il y a des centaines d'études scientifiques parues dans les grandes revues scientifiques de la planète, Science, The Lancet ou Nature, qui montrent la dangerosité extrême des pesticides. Il faut comprendre en plus que ces pesticides se mélangent dans les organismes vivants. Vous imaginez bien que la chimie c'est une rencontre perpétuelle d'atomes les uns avec les autres. C'est ce qu'on appelle dans le jargon la synergie ou l'effet cocktail de ces molécules dont personne ne sait rien, dont aucun scientifique de la planète n'est capable de venir vous voir, Guillaume Herner, pour vous dire qu'est-ce que ça produit dans un corps vivant. Je vais vous livrer une anecdote très simple. Très simple. Il y a quelques années, je buvais un café avec une autorité de l'ANSES. L'ANSES, c'est l'Agence publique de sécurité sanitaire. C'est ceux qui sont chargés de protéger la société française. Je ne vais pas dire son nom parce que ça le mettrait sans doute en porte-à-faux, vu ses responsabilités actuelles. Mais cet homme, très sympathique par ailleurs, donc buvait avec moi un café. Je lui dis à un moment donné, oui, mais alors qu'est-ce qu'il en est justement de ces effets cocktails, de ces mélanges de molécules dont on ne sait rien? Et il m'a répondu ceci, et je vous jure que c'est la vérité. Il m'a dit, ah, les effets cocktails, en effet. Eh bien, écoutez, moi, mon avis, c'est qu'on en saura peut-être un peu plus dans une ou deux générations. Donc, le responsable scientifique de l'ANSES disait froidement que dans une ou deux générations, on en saurait un petit peu plus sur les effets de synergie de toutes ces mixtures chimiques et pesticides qu'on a en nous, dans notre corps. C'est très grave.
Fabrice Nicolino, l'autre argument des fabricants de pesticides consiste à dire, très bien, vous allez interdire le Roundup, le glyphosate, on va les remplacer par quoi?
Non, mais notre campagne, elle ne se situe pas du tout sur ce mode-là. C'est-à-dire, nous pensons qu'on est dans un au-delà de cette discussion. Cette discussion, je l'ai menée depuis 20 ans de bonne foi avec quantité d'interlocuteurs, moi et d'autres d'ailleurs. Il n'y a plus de discussion scientifique valable sur la dangerosité des pesticides. On peut discuter de telle ou telle molécule. Bien sûr qu'une telle ou telle molécule peut être exonérée de tout danger. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais c'est la contamination générale qui est en cause. Et cette contamination est tellement certaine que je vous dis, on ne va pas se lancer dans une énième discussion. Les alternatives, tout ça, c'est excusez-moi.
Mais elles existent ou pas?
Mais elles existent, bien sûr, la FAO, pour ne parler d'elle, qui est comme l'agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, qui a eu partie liée avec l'industrie des pesticides et l'agriculture industrielle pendant des décennies. Voyons arriver la catastrophe, parce qu'il faut bien parler de ce qui nous attend. 10 milliards d'humains sur cette terre, sur des sols dévastés par la chimie de synthèse, ça ne sera pas possible. La FAO, qui a conscience de ses responsabilités, organise de régulièrement, encore une fois, le printemps dernier, des colloques de niveau international pour dire que la réponse globale à cette dévastation par la chimie de synthèse, c'est l'agriculture biologique, évidemment.
Fabrice Nicolino, votre appel, nous voulons des coquelicots, c'est aux éditions Les Liens qui libèrent Stop Pesticides. Vous l'avez écrit avec François Veillerette, on va offrir d'ailleurs un coquelicot à Clara Lecoq-Réal. Et oui, les coquelicots avec vous, Fabrice Nicolino, vous êtes journaliste à Charlie Hebdo, vous êtes aussi militant écologiste, vous publiez avec François Veillerette, nous voulons des coquelicots, c'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Vous dites que ça n'est pas un livre, mais un manifeste en faveur de l'interdiction de tous les pesticides. On va quand même parler politique, puisque l'écologie, cela fonctionne bien dans les rues. On l'a vu avec cette marche pour le climat. Ça fonctionne beaucoup moins bien en matière politique. Pourquoi cet échec? Pourquoi ces échecs répétés? Comment cela se fait-il qu'il y ait quasiment un consensus, je dis ça de manière très empirique, dans la population? Tout le monde est favorable à l'écologie, et puis sur le plan politique, ça ne se traduit pas.
Vaste question, je ne vais pas vous répondre dans le détail. Disons, pour moi, l'écologie, malheureusement, c'est un mot qui devient lourd à porter, parce que ça unit sous un même vocable des gens comme moi, des gens comme notre illustre ministre François Drugy, donc qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre.
Vous êtes ironique, Fabrice Nicolino?
Un tout petit peu. Disons, ça n'a pas grand rapport, je n'ai pas grand rapport avec ce monsieur. Et donc c'est gênant, c'est un mot un petit peu gênant. Disons, pour moi, l'écologie, en tout cas, telle que je la... Si je trouvais un mot, d'ailleurs je lance un appel aux auditeurs de France Culture, si on pouvait trouver un nouveau mot pour désigner ceux qui se battent vraiment pour une rupture mentale en faveur de l'écologie et de tout ce qui est vivant, ben moi je serais preneur. Disons que, et je reprends cette expression, l'écologie telle que je la comprends, c'est une rupture mentale et donc une rupture politique décisive. On ne peut plus se battre compte tenu de l'imminence des dangers, qui tout le monde a pris conscience, plus ou moins, mais tout de même, de l'imminence de dangers très graves. Le dérèglement climatique met en jeu la stabilité de toutes les sociétés humaines et menace même de dislocation toutes les structures humaines. Donc, on est en face de quelque chose de terrible. Les pesticides, évidemment, ce qui m'amène ce matin ici, c'est aussi un danger colossal, puisque ça tue tous les oiseaux, ça tue tous les insectes pollinisateurs, dont dépendent quand même 35% de la production alimentaire mondiale, il faut le redire. Donc on est en face de quelque chose de terrible et la vie politique reste organisée comme elle a été depuis finalement fondamentalement deux siècles, hein, autour de la droite et la gauche. L'écologie, c'est autre chose, c'est-à-dire c'est une rupture avec la vision industrielle du monde et en fait je pense que c'est une mise en cause du processus d'industrialisation qui a commencé il y a environ deux siècles en Occident et qui inclut, il faut bien le dire, les visions de gauche et les visions de droite. Et
ça veut dire que c'est la décroissance pour vous, l'écologie, Fabrice Nicolini ?
Non, c'est pas un mot que c'est un mot qui a pu être utile, c'est pas un mot que je reprendrai volontiers à mon compte parce que c'est à mon sens c'est un mot assez occidental, il faut bien le dire. Or l'écologie, c'est la planète. C'est la totalité des liens entre humains sur cette planète. Et donc, il faut absolument, et dans un temps très bref, inventer des formes politiques nouvelles qui renverront, franchement, dans leur cuisine respective tous les gens qui parlent au nom de l'écologie. Je crois sincèrement que, par exemple, l'aventure d'Europe Écologie et les Verts a été une tragicomédie, un peu tragique parce que les
encore une fois, je suis désolé d'insister, Fabrice Nicolino, mais pourquoi, comment vous expliquez ça? Comment cela se fait-il que cette idée noble, généreuse, soit incarnée par des gens, je parle du collectif, pas des individus, par un collectif qui semble vraiment incarner tout ce que la politique peut avoir de cuisine, de stratégie?
Oui, vous avez raison. Non, mais c'est pathétique, faut bien le dire. Je veux dire, l'aventure d'Europe Écologie et Vert est absolument pathétique. Mais c'est justement ce que je veux dire. Je veux dire qu'il nous faut inventer des formes nouvelles, donc, et rompre, accepter l'idée de rompre avec les schémas anciens, regarder le monde tel qu'il est et non pas tel qu'il a pu être dans le passé. Europe Écologie et Verts, c'est une vision évidemment très datée, c'est en fait une sorte de queue de comète de 1968 en France. Or, la situation est totalement neuve, c'est la première fois à ma connaissance, il est certain que pour la première fois depuis les débuts de l'aventure humaine, on se heurte à un mur physique qui est infranchissable. On est en train de mettre en cause la stabilité de toutes les sociétés humaines. Et quand on est en face d'un phénomène aussi majeur et aussi massif, alors oui, il faut inventer quelque chose de neuf. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est quand même le chantier principal pour moi. Et donc, je vous dis, c'est pas l'échec vous parlez d'échec de l'écologie politique, mais honnêtement, je m'en fous. Je veux dire, il s'agit d'autre chose aujourd'hui. Il faut unir des forces disparates. Regardez ce qui s'est passé autour de la Seconde Guerre mondiale. Dieu sait que, à ce moment-là, face à un danger immense qui était le fascisme, il a fallu unir des forces souvent opposées dans un cadre unique qui a permis tout de même, par exemple, le programme du Conseil national de la résistance, auquel tant de gens se réfèrent, et moi y compris. Donc, je pense que la situation est telle aujourd'hui qu'il faudrait imaginer une forme politique tout à fait original, et c'est pourquoi, à mon avis, on ne peut pas faire confiance à l'écologie dite politique.
Qu'est-ce qui s'est passé avec Nicolas Hulot ? Qu'est-ce qui explique, selon vous, son départ ?
Écoutez, moi, Nicolas Hulot, c'est un homme que je connais depuis une vingtaine d'années, c'est un homme que j'aime bien, pour qui j'ai de l'affection, je l'ai souvent dit, je l'ai aussi souvent critiqué très très durement, il en a souffert parce que c'est quelqu'un qui comme tant d'autres d'ailleurs, n'aime pas trop être secoué, je l'ai secoué, je ne regrette rien, mais néanmoins, c'est un homme sincère, et je tiens à lui rendre hommage, c'est un homme sincère, simplement, on voit bien, c'était d'une très grande naïveté de croire que dans un gouvernement totalement tourné vers le business, on pouvait espérer des résultats en matière d'écologie, c'était absurde, à mon avis, totalement absurde, et je l'ai écrit, et donc il le sait. français. Mais il a fait ce chemin de croix. Il s'est heurté à la réalité du monde existant, c'est-à-dire des lobbies surpuissants invités à l'Élysée. C'est le lobby de la chasse, mais bien d'autres lobbies. Le lobby du nucléaire, le lobby des pesticides. Tout ça avait table ouverte à l'Élysée auprès d'Emmanuel Macron, qui est un militant pro-business. On peut le voir comme ça sans aucune hésitation. Et donc, Nicolas Hulot s'est heurté la tête la première contre un mur qu'il ne pouvait pas franchir. Donc, Hulot s'est rendu compte, trop tard selon moi, parce qu'il a fait perdre du temps, à mon sens, mais en tout cas, il s'est rendu compte que ça n'était pas possible.
Pourquoi
que ça n'avait aucun
sens.
Parce que le temps est compté. Et que quand on passe un an à blablater, je m'excuse, je parle pas du lot, encore que je parle de tous les politiques.
Mais François de Rugy.
François de Rugy, si vous voulez, c'est un carriériste banal, assez médiocre, faut bien le dire, qu'est-ce qu'il est d'autre qu'un homme qui construit sa carrière, tout le monde le savait. Moi, je suis sa petite carrière depuis quand même quelques années, je sais très bien.
C'est un écologiste.
Non, mais pas du tout. Enfin, on tombe sur le problème que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est un mot qui recouvre des réalités qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Non, écologiste ne l'est pas, c'est un homme politique. Pour ne pas dire un politicien, qui bâtit une carrière. Il voulait être ministre, il l'est. C'était le nirvana pour moi, pour lui, semble-t-il, le perchoir de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on éclaire un peu plus les conditions de son départ, parce qu'il ne voulait pas partir. Et je doute personnellement, très fortement, qu'il ait voulu partir de l'Assemblée nationale. Je pense qu'on ne lui a pas tellement donné le choix.
C'est-à-dire?
Mais parce qu'il fallait caser Richard Ferrand, c'est évident, l'ami sincère d'Emmanuel Macron. Et François de Rugy, il avait annoncé qu'il ne céderait pas sa place au bout de 2 ans et demi, comme il était prévu au point de départ, parce que Richard Ferrand espérait reprendre le perchoir au bout de 2 ans et demi. Et il ne voulait pas lâcher le perchoir. Je pense qu'on lui a fait entendre que c'était ça ou rien. Et je crois qu'il a cédé. Je ne crois pas du tout. Il présente ça, évidemment, à son avantage comme une promotion. Je vous assure que quand vous êtes troisième personnage de l'État et que vous devenez ministre, c'est difficile de croire à une promotion.
Lorsque Nicolas Hulot a démissionné, on a beaucoup parlé du lobby de la chasse. Est-ce que, malgré tout, même si vous parlez donc d'une nécessité, d'une rupture, puisque...
Rupture mentale.
Mais
mentale.
Cette rupture mentale, est-ce que vous êtes capable de hiérarchiser les priorités?
Regardez la voiture. Je veux dire, il y a 40 ans, on avait un homme comme René Dumont qui est servi à toutes les sauces aujourd'hui. Tout le monde se réclame de René Dumont, mais René Dumont que j'ai un peu connu personnellement.
Il faut rappeler qui il était.
René Dumont, candidat écologiste à la présidentielle de 1974. Il a incarné l'écologie dans ces années 70 qui paraissent si vieilles aujourd'hui. Mais néanmoins, René Dumont, il disait la vérité sur la bagnole. La bagnole, c'est un ennemi, c'est pas un adversaire, c'est un ennemi parce que c'est une autre vision du monde, c'est une autre façon de concevoir le monde. Et aujourd'hui, par exemple, on parle de réchauffement climatique, chacun y va de son petit couplet, mais regardez, et vous en reparlerez peut-être, mais les SUV, c'est-à-dire ces machines qui sont surélevées, des automobiles surélevées, ça va
des
être
gros
bientôt...
4x4.
Oui, enfin, c'est pas tout à fait des 4x4, mais c'est des machines qui consomment beaucoup plus d'essence, qui participent beaucoup plus au dérèglement climatique que les voitures ordinaires. Eh bien, dans quelques années, très prochainement, dans les 2 ou 3 ans, 50% des voitures qui seront vendues en France sont des SUV, des SUV. Et on parle aussi de relancer la machine industrielle autour de la bagnole par la voiture autonome, vous en avez entendu parler. Donc, si vous voulez, dans le même temps qu'on dit qu'on va lutter contre le dérèglement climatique, exactement dans le même temps, on relance l'industrie automobile qui est un des moteurs de cette crise climatique. Donc vous voyez, il y a les propos, les paroles qui n'engagent que ceux qui y croient, et puis la réalité. Moi, je suis pour une rupture, c'est-à-dire que je suis pour revenir à cette évidence que oui, il y a des objets qui posent problème, des objets de consommation de masse, et par exemple, moi, vous ne me verrez jamais défendre l'industrie automobile. Jamais, jamais, jamais.
Mais peut-être avez-vous une voiture ?
J'ai une vieille voiture vraiment à l'ancienne. Il faut ouvrir les vitres à la main. Il n'y a pas de climatisation parce que la climatisation, c'est tout de même 15% de plus de consommation d'essence quand ça fonctionne. Donc, si vous voulez... Mais en plus, je regrette, il n'y a pas d'autre moyen. Là où je vis, il n'y a pas d'autre moyen.
Non, mais c'est souvent le problème auquel
c'est une vieille voiture,
les gens sont confrontés.
C'est une vieille voiture pourrie. Mais de toute façon, j'en ai honte. Je vous le dis exactement comme je le pense. Et je rêverais d'un monde qui aurait un sursaut tel qu'on mettrait en cause les SUV, qu'on mettrait en cause la voiture autonome et qu'on s'orienterait vers un monde avec de moins en moins de bagnoles.
La voiture électrique, c'est une solution, Fabrice Nicolino ?
Non, c'est pas une solution, mais tout ça, c'est de la fantasmagorie. On croit miraculeusement qu'on va s'en sortir en appuyant sur un bouton. C'est ça, c'est l'écologie à l'ancienne. quotidienne qui n'a aucun sens et qui se heurte à la réalité. Et je veux revenir une seconde sur l'histoire des pesticides parce que c'est très important. En fait, le livre dont vous parliez au début, et merci
d'en avoir
parlé.
Nous voulons des coquelicots ?
Oui, eh bien ce livre fait partie d'une vaste campagne. En fait, on a créé une association qui s'appelle Nous voulons des coquelicots. On a créé un site qui ouvre demain qui est nousvoulonsdescoquelicots.org parce qu'on lance une campagne qui vise à mobiliser, écoutez bien ce que je vais vous dire, 5 millions de personnes en 2 ans. On veut qu'au bout de 2 ans, on ait 5 millions de soutiens à notre appel pour la sortie, pour l'interdiction de tous les pesticides. Et on va y arriver parce que on donne un rendez-vous dès le vendredi 5 octobre à 18h30 sur les places des villes et des villages où les signataires de l'appel vont se retrouver. Et ils se retrouveront tous les mois pendant tout le temps que durera l'appel, c'est-à-dire 24 fois. On sera peut-être 150 le premier soir, mais moi, je vous assure qu'on sera des milliers, voire des centaines de milliers au bout de 24 mois. On a un coquelicot qu'on va pouvoir acheter, un coquelicot en tissu de récupération qui a été fait dans un atelier de réinsertion de la banlieue parisienne. Ce coquelicot que vous arborez fièrement voilà. À la main, Guillaume Herner, eh bien ça va être le symbole de notre combat. Et sachez, pour les auditeurs de culture, ça a peut-être un sens de le dire, la chanteuse Émilie Loiseau nous fait l'honneur de préparer une chanson qui sera la chanson de notre campagne. Dès qu'elle sera faite, vous l'entendrez certainement sur les ondes de France Culture, Émilie Loiseau qui a rejoint notre combat, prépare une chanson, et tout ça va être joyeux mais extrêmement déterminé, c'est-à-dire nous n'acceptons plus de discussion sur le sujet. La société vivante et démocratique française se réveille, elle doit montrer sa force et dire dans quel monde elle entend vivre. Elle veut vivre, nous voulons des coquelicots car nous voulons des oiseaux, nous voulons des abeilles et nous ne voulons plus que les gens soient malades à cause des pesticides, notamment au travers du cancer ou des maladies neurologiques telles Parkinson. Voilà, ça suffit.
Fabrice Nicolino, si on en finit avec les pesticides, ça veut dire qu'il va falloir en finir avec l'agriculture extensive.
Sans doute, mais c'est pas notre
intensive,
sujet. Industriel, si vous voulez, ça n'est pas notre sujet. Nous n'allons pas parler de ça dans notre campagne. Nous allons dire, nous voulons des coquelicots.
Mais là,
je vous réponds franchement. Bien sûr, mais si vous voulez, l'agriculture industrielle, elle est absolument condamnée à mort par l'évolution des choses. Un très grand nombre d'agronomes dans le monde le savent. La FAO elle-même, qui a longtemps soutenu, la FAO, c'est l'agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, elle a longtemps soutenu l'aventure de l'agriculture industrielle. Elle remet en cause ce qu'on appelle ce paradigme-là, bien sûr, parce qu'il va falloir nourrir 10 milliards d'humains, sans recourir à la barbarie, sans affamer des milliards d'humains, parce que c'est ça qui se profile à l'horizon.
Justement, en êtes-vous certain, Fabrice Nicolino? Est-ce qu'il est possible de nourrir aujourd'hui tant d'êtres humains sans avoir recours à des pesticides, à des OGM?
Mais évidemment, c'est une infamie de faire croire le contraire. Je vous le dis comme je le pense. Si j'étais le seul à le dire, bien, mais quantité de structures tout à fait officielles, dont la FAO, vous disent aujourd'hui que seule l'agriculture biologique au plan planétaire est susceptible de nourrir correctement le monde en maintenant un minimum de biodiversité. Parce que l'agriculture industrielle tue la biodiversité. Et donc, il faut se tourner vers un autre modèle, c'est tellement évident. Et je pense que tout le monde en sera heureux en France, à commencer par les paysans. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour le monde paysan, pas pour les gros céréaliers de la Beauce, je le dis franchement, mais pour les paysans, les éleveurs, tous ces gens qui ont été lancés dans une aventure atroce, qui est en train de les ruiner et de les désespérer. Je pense qu'il faudrait créer un pacte national, il faudrait que la société s'engage de manière à sortir de l'agriculture industrielle, un plan de 10 ou 15 ans, on mettrait de l'argent sur la table et on s'adresserait directement aux paysans pour construire avec eux une France totalement différente. C'est possible et c'est hautement souhaitable.
Il y a une icône de l'écologie qui a été attaquée à gauche cet été, c'est Pierre Rabhi. Il y a eu un article dans Le Monde diplomatique expliquant que Pierre Rabhi était une sorte de gourou avec des théories qui ne sont pas des théories sérieuses, qu'il y avait une sorte de dérive sectaire autour de lui. Vous avez pris sa défense. Expliquez-nous pourquoi, Fabrice Nicolino.
Écoutez, Le Monde diplomatique s'est livré une très mauvaise manière contre Rabhi, mais aussi contre l'esprit de vérité, contre l'esprit tout simple de la vérité. Oui, c'était un article que j'ai trouvé absolument détestable. J'ai fait une réponse très longue sur mon blog, Planète sans visa. J'ai fait cette réponse d'abord parce que Rabhi est un ami, hein, que j'aime, je le dis absolument sans détour. Et il est critiquable, qui ne l'est pas. Il a ses défauts et ses limites, qui n'en a pas. Mais l'article du Diplo était un article, selon moi, de pure et simple désinformation. Ça renvoie à ce qu'est culturellement et intellectuellement une partie de la gauche française qui, à mon sens, n'a pas réglé son passé tragique et terrible avec le stalinisme, les stalinismes. Le stalinisme est certes mort très largement dans le monde, mais il en reste beaucoup de traces dans le débat intellectuel, à mon sens, et notamment en France, où le stalinisme a été d'une puissance redoutable. Pour moi, c'est dans cette logique-là qu'il faut replacer l'article du Diplo. Est-ce que Rabhi est un gourou? Absolument pas du tout.
L'accusation d'homophobie.
Non, c'est une accusation grotesque. Précisons bien que pour moi, l'homophobie est un racisme et à ce titre absolument détestable et condamnable comme tout racisme. Donc moi, j'ai aucun problème avec ça. Est-ce que Rabhi, dans la citation du Diplo, est-ce que Rabhi se montre homophobe? Absolument pas du tout. Je défie quiconque de montrer cela. Il s'est posé des questions et il a le droit. Et tout le monde a le droit. Il s'est posé des questions sur le modèle de famille qui pourrait naître à l'avenir dans un pays comme la France. Mais il n'a jamais, à ma connaissance, mis en cause les homosexuels ou la condition d'homosexuel dans ce pays. Jamais. Donc, c'est une manipulation de la même façon que dans l'article du Diplo, on essaye de faire croire, contre l'évidence des faits, que Rabhi serait finalement proche de gens vichistes. On essaie de faire croire que
c'est ce n'est pas la première fois que l'écologie, la deep écologie, comme on dit.
Mais c'est pas un deep écologiste. Absolument pas du tout. Rabhi n'est pas du tout ça.
En tout cas, qu'il y a des affinités électives entre l'écologie et la pensée de droite, voire la pensée de droite dure, Alain de Benoît, qui est Fabrice Nicolino. Alain de Benoît, qui est l'un des théoriciens de la droite dure, est aujourd'hui quelqu'un qui explique que le capitalisme est quelque chose qu'il faut combattre, qu'il faut revenir à un certain nombre de fondamentaux qui pourraient le faire passer pour un décroissant. Justement, expliquez-nous en quoi vous vous distinguez de lui, Fabrice Nicolino.
Mais je ne vais pas répondre pour Alain de Benoît, dont je me contrefous, pour vous dire la vérité. Je sais qu'Alain de Benoît, donc il a toujours cette revue qui s'appelait Crisis. Je me souviens qu'à 30 ans, figurez-vous. Bon, il y a 30 ans dans Crisis, il récupérait déjà des journalistes et des auteurs de gauche, voire d'extrême gauche. Je me souviens très bien, par exemple, de Bernard Langlois, qui est un des fondateurs de Politis, ou Jean-Paul Besset, qui a été député européen écologiste, qui écrivait, à mon sens, par mégarde, je l'aurais jamais fait personnellement, mais dans Crisis. Donc c'est une vieille histoire, c'est une sorte de touche à tout, Alain de Benoît, qui récupère à droite, à gauche, à l'extrême droite, à l'extrême gauche. Bon, moi, j'ai aucun rapport avec cet homme-là. Ça ne m'intéresse pas. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est ce que vous dites là, permettez-moi de vous le dire sincèrement, c'est colporter de pure et simple rumeur. Il faut établir les choses. C'est fondamental dans un débat de bonne qualité de savoir de quoi on parle, de quoi s'agit-il au juste. Est-ce que Rabhi a copiné si peu que ce soit avec l'extrême droite? Si tel avait été le cas, il ne serait pas mon ami. S'il l'est, je connais Rabhi depuis très longtemps, je sais ce qu'il a écrit, je sais ce qu'il pense, je le fréquente, je l'ai encore vu pour ses 80 ans il y a quelques semaines. Je sais que ça n'est pas vrai et je sais aussi, parce que j'ai fait l'analyse de ce texte, une analyse très longue qui m'a coûté du temps, qui a été publiée, je le répète, sur mon blog Planète sans visa, eh bien, je sais que le monde diplomatique a simplement menti par différentes méthodes que je connais par cœur et qui sont détestables.
Non, là, en l'occurrence, je ne parlais plus de Rabhi. Je parlais en général, si vous voulez, de l'écologie politique, de la récupération dont elle est l'objet, selon vous, par un certain nombre de milieux, tout simplement parce que il peut y avoir, je ne dis pas que c'est votre cas, Fabrice Nicolino, mais il peut y avoir un ennemi commun qui est le capitalisme et une partie de l'extrême droite est mobilisée contre le capitalisme. Par conséquent,
franchement, c'est assez dérisoire. Alain de Benoît, c'est assez dérisoire, assez marginal. Mais je vais vous dire un truc très simple. On va parler d'Alain Cordier. Vous voyez, Alain Cordier, il doit avoir 87 ou 97 ans. Alain Cordier, c'est l'ancien secrétaire de Jean Moulin.
Daniel.
Je suis désolé. Alain Cordier, c'est une autre personne que je connais également, mais qui est l'ancien patron de Bayard. Mille excuses. Donc Daniel Cordier, bien entendu. Ce personnage extraordinaire, j'avais lu avec passion, Alias Caracalla, qui est le récit de cette aventure géniale qui le mène, lui, qui a 18 ans, d'abord en Angleterre, puis parachuté en France, où il devient secrétaire de Jean Moulin. Daniel Cordier, c'était une petite frappe. En 1940, une petite frappe, c'est-à-dire c'était un antisémite, c'était un royaliste fervent, c'était un anti-républicain, c'était un homme, à mes yeux, détestable. Il a considérablement évolué puisqu'il est devenu le secrétaire de Jean Moulin et qu'ensuite il a pris sa défense quand Jean Moulin était accusé d'être un crypto-communiste. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une situation d'exception, et Dieu sait que la crise écologique planétaire, c'est une situation d'exception, condamne, je dis bien condamne, à rassembler, à réunir des gens qui ont pu être opposés sur des points importants. Il y a des règles d'or, pour moi, il y a des frontières qui ne seront jamais dépassées. Le racisme est évidemment une de ces frontières. Je préférerais me couper un bras que de traiter avec un raciste. C'est clair et c'est net et c'est définitif. Mais néanmoins, il faut admettre que des gens changent dans le courant de leur vie et qu'ils peuvent, et là je parle évidemment pas d'Alain Benoît, mais moi, il est évident qu'il y a des gens qui, dans le cas de ces crises écologiques planétaires, vont se tourner vers l'écologie parce que c'est une réponse cohérente et enfin crédible à cette crise terrible qui nous oblige à sortir de nous-mêmes, de même que l'appel des coquelicots, de même que cet appel pour l'interdiction de tous les pesticides doit obliger tous les humains que nous sommes, tous les éditeurs de France Culture et tout le monde dans ce pays qu'est la France, à sortir d'eux-mêmes pour enfin exprimer quelque chose de fort et de vivant.
Dans cet appel pour Nous voulons des coquelicots pour l'interdiction des pesticides, Fabrice Nicolino, vous insistez beaucoup sur le poids des lobbies. Comment concrètement, selon vous, il est possible de lutter contre ces lobbies qui, si j'en juge par les pages que vous leur consacrez, sont responsables ou expliquent une partie du piétinement de la lutte?
Je vais prendre un exemple qui est terrible, qui est actuel, le directeur de l'ANSES. Le directeur de l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments, je ne sais plus quel est l'intitulé exact, mais en tout cas, c'est l'agence qui est à la fois chargée, en notre nom, de donner les autorisations de mise sur le marché des pesticides et de protéger la population contre les effets des pesticides. C'est déjà un mélange de gens que je trouve très, très, très étrange. Mais le directeur actuel, Roger Genet, a donné une interview extravagante à un site dirigé par un personnage qui est un désinformateur professionnel, qui s'appelle Gilles Rivière-Wegstein. Roger Genet a donné le 3 mai une interview à cet homme-là, interview délirante, selon moi, dans laquelle M. Genet prend à la défense du glyphosate, se met en contradiction avec M. Macron, qui, à la même époque, annonçait que le glyphosate serait interdit en France sous 3 ans. Mm-hmm. Donc, le 3 mai 2018, M. Genet, qui est le directeur de l'ANSES, prend la défense du glyphosate et dit « Oh là là, mais nous n'avons pas de preuves et de toute façon, il en faudrait d'autres et donc il va falloir lancer de nouvelles études qui prendront entre 3 et 5 ans. » Et faisant cela, il contredit très exactement la parole présidentielle. Autrement dit, le haut fonctionnaire, directeur de l'ANSES, qui est chargé de protéger la population contre les pesticides, prend position contre son gouvernement, contre le chef de l'État qu'il emploie en défense des pesticides et en défense du glyphosate. Et tout cela sur un site qui est un site de désinformateurs professionnels. Donc moi je crie au secours, c'est-à-dire est-ce que monsieur Roger Genet est crédible quand il entend nous défendre la population française contre les pesticides? Ma réponse claire et nette est non, il n'est pas crédible, il n'est plus crédible. Et j'estime que au stade où nous en sommes rendus, il devrait rendre des comptes.
Aujourd'hui, donc, cet appel des coquelicots, Fabrice Nicolino, l'urgence pour vous, c'est d'interdire les pesticides. Comment voyez-vous les choses concrètement? Donc, vous nous avez expliqué que vous souhaitez inviter les Français à se réunir sur les places. Qu'est-ce qui va se passer?
5 millions de personnes. Si on arrive à cela,
C'est Mathilde Serrel qui essaye de rejoindre sa place.
Si on arrive à rassembler 5 millions de personnes comme on l'espère, comme nous l'espérons à nous, dans l'association Nous voulons des coquelicots, eh bien, le débat se pose dans des termes totalement différents parce qu'il apparaîtra quoi? Qu'on est face à un gouvernement qui ne veut pas bouger pour les raisons que j'ai dites, parce qu'il est intimement lié à l'industrie des pesticides et au lobby des pesticides et au lobby industriel en général, mais il sera confronté à une opinion très puissante, des millions de signataires. Il y aura crise politique et j'espère vivement que nous en profiterons.